17h50 minutes en ce mardi matin de la belle visite en studio. Ça faisait quand même un petit bout qu'on l'avait pas eu en personne avec nous à Rage Against le matin. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, bon matin.
Bonjour.
Merci d'être là, très apprécié. On commence en jasant hockey, vous suivez.
On commence avec les bonnes nouvelles. On va tout régler ce qui va mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de gagner mon pari contre Enrico Ciccone.
C'est complètement capable. Parlez-nous de ce pari-là qui s'est fait quoi? Début de saison, là, au mois d'août?
Je suis allé aux amateurs de sport pour une émission à la fin août, puis j'ai dit qu'à mon avis, les Canadiens vont faire les séries. Je mets l'entrevue, puis je refais ma prédiction sur Facebook. Qui me répond sur ma page? Enrico Ciccone en disant « Prochaine fois, consulte-moi avant de dire des affaires qui ne tiennent pas debout. Mais bonne saison, pareil. » J'y réponds tout de suite. Est-ce qu'on gage? Si le Canadien fait les séries, tu revais le chandail du Parti québécois. Et là, à l'inverse, si je perds mon pari, c'est moi qui vais être pris avec le chandail du Parti libéral sur mes épaules. Tout de suite, il a dit oui. Et c'est demeuré là. Puis il y a eu une période creuse où est-ce qu'il me narguait là, à fond la caisse dans le Salon Rouge. En novembre, là, ça allait pas bien, on n'avait pas de chance.
Vous demandez peut-être votre grandeur de chandail
ben,
et tout.
C'est juste des jokes comme ça, là, tout le temps. Puis là, tout d'un coup, est arrivé les victoires en décembre, puis l'espèce de miracle qu'on est en train de vivre. Puis c'est la face d'Enrico. À chaque fois que je rentre dans le Salon Rouge, puis je le fixe, c'est tellement le fun. Donc, c'est comme mon rêve de dire le Parti québécois est fier de sélectionner le numéro 39. Anciennement des Stars de Dallas. En tout cas, je suis en train de visualiser là, ce moment où il va enfiler le
Ouais, puis là, vous avez même des croquis de chandail et tout ça. Là, ça va loin. Là.
Ben, c'est parce que j'ai pas le choix. Enrico Ciccone, c'est une pièce d'homme. Là, fait que tu lui donnes pas un chandail médium. Donc, ça m'en prend un XXL exactement aux couleurs du Parti québécois. Donc, j'ai demandé, étant donné que là, on a 5 victoires de suite, qu'au moins on commence le design du chandail et on va peser sur la commande seulement quand ça sera confirmé, parce qu'il ne faut pas non plus être... créer son propre malheur en faisant des choses à l'avance. Mais bref, on n'est pas loin. Donc ce soir, contre les Red Wings, ma famille, mon fils, on fait juste ça, on regarde la game.
C'était audacieux, le CH en série, mais quand même plus de chance que d'avoir un pays.
Ben, en fait, on me disait l'inverse. Donc moi, je trouve que la preuve est dans le pudding. La preuve est dans le pudding, c'est de dire, peu importe c'est quoi les probabilités, si le projet a de l'allure et que c'est intéressant, let's go.
Donc si le Canadien fait série, le Québec se sépare du Canada. Let's go. On règle ça.
C'est ça la conclusion. Que je peux m'en aller, bye.
Bon, c'est merde. Alors, revenez, monsieur Saint-Pierre Plamondon, pour parler des moins bonnes nouvelles. Qu'est-ce que la CAQ est en train de faire avec notre capitale nationale?
Ben, un peu la même chose qu'à l'échelle du Québec, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui travaille mal, qui est brouillon, qui fait toutes sortes d'annonces. C'est pas rien, là. Ils se sont présentés comme un gouvernement de comptables qui gérerait les finances publiques avec rigueur. Résultat, on n'a jamais gaspillé autant d'argent au Québec. Ça clique, là, je réitère le montant. Vous connaissez toute l'histoire, là, mais le montant en jeu, c'est 1,5 milliard.
Pas de sens.
Pas de sens. Puis regardez, là, à l'échelle de Québec, là, le garage Newton, le garage d'autobus.
Oui.
Ça a l'air de rien, mais c'est que le projet, il est annoncé puis il est déjà démarré. Tirer la plug sur ce projet-là, ça coûte à peu près 100 millions de dollars qu'on a lancé par les fenêtres, mais vous avez ça, là. Moi, dans l'Est de Montréal, c'est le REM de l'Est, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qu'on a fait tout, puis finalement, on... Mais il y a un prix à l'incompétence, je suis obligé de le dire, là, c'est le seul mot qui convient. Il y a un prix à mal travailler, et c'est la dilapidation des fonds publics, où est-ce que tu dis quelque chose, tu fais travailler tout le monde dans un sens, finalement, c'est l'inverse. Puis à Québec, c'est là que c'est le plus grave ou le plus évident, parce qu'il y a eu notamment le troisième lien, le tramway. Là, c'est les voies réservées. Il y en a plein des exemples où est-ce qu'on a pris une direction, puis finalement, on n'avait pas réfléchi, on avait mal travaillé. Résultat, on gaspille.
Hey, justement, parlez-nous de l'Est de Montréal, parce que je trouve qu'il y a un bon comparatif à faire entre l'Est de Montréal et la capitale nationale. Puis ici, à Québec, c'est normal, on est moins informé. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, projet de 5 milliards. On avait déjà, j'imagine, dépensé des sommes pour des plaintes de vie, etc. Même
tout
principe pour le REM de l'Est.
Tout est prêt. Le REM de l'Est, il y a vraiment beaucoup de gaspillage parce qu'il y a eu la caisse qui était supposée le faire. Ils ont travaillé là-dessus. Ensuite, on a repris le dossier, on l'a mis entre les mains de la RTM. Donc, il y a un prix à ça. Mais l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est plus symbolique parce qu'il faut le visiter pour voir comment sont traités les gens de l'Est de Montréal quand ils sont soignés. Ce sont des lieux là, d'une vétusté indescriptible. Donc, c'est le troisième lien de l'Est de Montréal ou de Montréal. Parce que l'annonce est officielle, et c'est vraiment le fanfare, trompette, les gens, en principe, devraient pouvoir se fier. Puis tout d'un coup, volte-face. Mais à la différence que le troisième lien à Québec, les vies ne sont pas en jeu. Et moi, ce qui m'inquiète de cet hôpital-là, c'est des ascenseurs bloqués, c'est le feu qui pogne dans le système d'électricité. C'est tellement délabré que la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la capacité de déménager un patient après sa chirurgie, tout ça est fragile et ça peut mal virer. Donc, c'est là-dessus que je vais travailler comme député de l'Est parce que c'est dangereux et c'est inacceptable en termes de confiance. On ne peut pas faire confiance à ce qu'ils disent. Point final.
Est-ce qu'on a frappé le mur, M. Saint-Pierre Plamondon, par rapport au projet abandonné par la CAQ ou c'est la pointe de l'iceberg? Puis ça serait complètement inquiétant, même épeurant.
On n'a pas fini ce film-là parce que ce qui m'inquiète, c'est, par exemple, des mémos de Santé Québec qui disent là, votre entretien des hôpitaux, écrivez-nous avant de faire quoi que ce soit, puis choisissez quelques projets, le reste, on va mettre sur la glace. Quand tu es obligé de faire ça, c'est qu'il y a anguille sous roche au niveau de tes liquidités, au niveau de ta santé financière. Et quand on regarde les finances du Québec, ça fait deux budgets de suite que la CAQ nous sert le pire déficit de notre histoire, 10 point quelques milliards, puis ensuite 13 point quelques milliards. Et en passant, ça n'a rien à voir avec Donald Trump. Même dans l'hypothèse où tout se réglait, c'est budgété, puis on a 12 quelques milliards en déficit. Et ça, c'est dangereux parce que si jamais tu as une récession, si jamais les circonstances changent, mais elles sont plus difficiles, tu n'as pas de coussin. Puis si tu fais un déficit encore plus grave, là, tu tombes dans la décote. La décote, c'est quand les banques qui sont prêteuses disent « c'est mal géré au point où on va te charger plus cher en intérêt sur l'argent qu'on t'a passé ».
Alors là, on est sur le bord de ça?
Là, c'est rendu un vrai risque, à mon avis, parce que sinon, tu ne fais pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire couper dans plein d'affaires de manière aléatoire, dire en santé. Tu sais, la santé, c'est névralgique pour les gens. Quand tu dis à Santé Québec, trouve-moi encore 1,5 milliard ici et là, c'est que le feu est pris quelque part. Évidemment, c'est un gouvernement très opaque. Je ne peux pas vous dire pourquoi et où, mais les symptômes sont là. Donc, le film n'est pas fini et il va y avoir beaucoup de ménage à faire pour un gouvernement qui va leur succéder.
Je continue. Ben, tiens, je vais y aller avec ça comme question. Est-ce que ça vous inquiète, vous êtes premier dans les sondages? On vous voit comme le futur gouvernement aux élections 2026. Ça vous inquiète-tu de tomber sur plein de pelures de bananes puis de dire « Oh my God, je pensais jamais que la situation était catastrophique comme ça. Comment je vais faire pour être un gouvernement responsable et surtout un gouvernement respecté de la population? »
Ben en fait, ce que ça fait à l'interne de notre côté, c'est qu'on s'est mis à réviser le fameux PQI, là, donc ouais. Le plan d'infrastructure, c'est comme la liste d'attente des projets. Puis là, j'ai dit à mon équipe, on va revoir tout ça, puis on va se poser la question, nous, on ferait quoi? Parce que tout ce qu'on voit en ce moment, c'est une liste d'attente qui n'arrête pas. Tu sais, c'est rendu un parking à projet, le PQI, mais les projets ne débouchent pas. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les prix soient plus bas? Parce qu'au Québec, nos projets coûtent plus cher qu'ailleurs. Mais se faire un plan de match, donc ça nous amène à être plus prudent. Puis être plus prudent, je ne m'en cache pas, sur les promesses qu'on voudrait faire. Parce qu'il y a des bonnes idées qu'on a. Mais avant de se commettre, c'est tellement fragile, cette affaire-là, qu'on se dit, ben on veut pas justement se retrouver dans une situation à la troisième ligne où est-ce que tu as dit plein de choses avant, tu te retrouves au pouvoir, puis finalement, il n'y a rien qui a été vérifié, ça n'a pas été réfléchi, puis tu passes tous tes mandats à justifier l'injustifiable. Là. Donc, vous remarquerez que le Parti québécois attend un peu avant de se commettre sur un certain nombre d'affaires qui nous tiennent à cœur pour autant, mais il faut être sérieux là-dedans. Là. Tu peux pas dire plein de choses, puis ensuite faire ce que la CAQ vient de faire, c'est-à-dire perdre la confiance de la population.
Pour le référendum sur la souveraineté du Québec, pour ça, on garde le cap, peu importe ce qui arrive dans un premier mandat, ou il y a quand même des circonstances qui pourraient faire qu'on repousse ça à un deuxième mandat?
Le plan demeure le même parce que c'est une fenêtre qui est dans le futur.
Peu importe ce qui arrive.
Bien, ce que j'ai dit, c'est on va user de notre jugement, là, dans le sens où...
Fait qu'on ouvre la porte.
Bien, tu n'ouvres pas la porte en termes de report, mais tu dis à la population, évidemment que c'est une fenêtre de 4 ans pour consulter la population sur ça. Tu ne choisis pas en plein milieu d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Là. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience politique, mais ça fait quand même 5 ans que je suis chef du PQ. Là. Une des choses que j'ai retenues, c'est que tu fais pas... La réalité, il y a 6 mois. La réalité maintenant, puis le contexte dans 6 mois, c'est souvent le jour et la nuit. Donc, tu fais pas de la politique en fonction de la saveur du moment. Tu le fais de la politique en fonction des fondamentaux. Mes fondamentaux à moi, mes constats, c'est qu'on n'a pas d'avenir linguistique et culturel si on demeure dans le Canada. Et le fait qu'on envoie la moitié de nos impôts à Ottawa alors qu'eux, ils n'ont pas la santé et l'éducation sur leurs épaules, ils offrent très peu de services, nous amène dans la situation budgétaire en partie pour l'incompétence de la CAQ, mais aussi en partie parce que la moitié de nos impôts ne sert pas aux missions fondamentales. Je ne vois pas d'avenir économique ou financier. Une fois que c'est ça que je pense, oui, il faut que je garde le cap.
Donc, on promet un référendum dans un premier mandat.
Dans un premier mandat. Et en même temps, on a dit à quelques reprises là, que je comprends que les gens en ce moment voient un contexte vraiment inusité, hors du commun. Puis on va se servir de notre jugement, mais probablement que le contexte dans 3 ans, ce ne sera pas ça. Ouais. Les choses vont avoir évolué.
Ouais, Donald Trump va partir dans 3 ans, donc peut-être on l'espère. Ça va être
bien. Ouais. Ben, en tout cas, je ne sais pas si vous suivez comme moi les marchés. Il y a des midterms qui s'en viennent. Moi, j'ai toujours pensé, ouais. Je réitère ce que je pense là, de la situation avec Trump. On négocie pas avec quelqu'un d'hostile quand il est à son plus fort. Puis là, c'était comme la course à qui dit « on va renégocier ». Un instant, il va y avoir des midterms. Il y a des contrepoids aux États-Unis. Je touche du bois, là. Mais j'espère vraiment que ces contrepoids-là vont amener un réajustement de la politique américaine. Parce qu'en ce moment, vous le voyez, qui ça pénalise le plus, cette histoire-là? Puis les Européens n'ont pas parlé encore, là. Mais ça va pénaliser les États-Unis. Donc, il y a des voix qui vont s'élever aux États-Unis. Donc, il faut ralentir le jeu puis prendre notre temps. Il y aura une renégociation avec les États-Unis, mais idéalement, on va le faire lorsque il y a un peu plus de modération puis que ces contrepoids-là ont fait un peu leur travail. Là.
Sam Hamad était en entrevue hier sur nos zones. Si Sam Hamad devient le prochain maire de Québec, il ne veut rien savoir du projet de tramway. Si le Parti québécois est au pouvoir au Québec, qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là? Je sais que ça fait 2 si, mais...
Oui, c'est ça. Je vais rajouter un autre si, puis là, on est vraiment dans un monde totalement hypothétique.
Oui.
Je pense pas que je vais me mêler des courses, des élections municipales. Donc, évidemment que nous, on va travailler avec peu importe qui est élu par les gens de Québec. Sur les projets d'infrastructure en général, ma position très personnelle, c'est que je suis tanné à Québec qu'il n'y a rien qui débouche. On peut-tu juste au moins en réussir un?
On est dans la même équipe, ouais. Là-dessus.
Bon, c'est de l'argent, c'est des investissements, c'est des jobs. Puis il y a des experts qui nous disent que ça va débloquer certaines artères, donc réduire le temps dans la voiture des usagers. Moi, j'aimerais mieux voir des projets atterrir, même s'ils ne seront jamais parfaits, puis il y aura toujours quelque chose qui... Que juste de voir rien pendant 15-20 ans, parce qu'on... On a toujours c'est comme un, ouais. Des essuie-glaces. Là, ça,
donc, tu serais à l'aise de voir un SRB atterrir au lieu d'un tramway parce qu'au moins, on aurait un projet.
Je pense qu'il faut vraiment que quelque chose atterrisse à Québec, ne serait-ce que par équité, en termes d'investissement par région.
Cool. Campagne électorale fédérale, on est en pleine campagne, mais comme on se parlait un peu hors d'onde tout à l'heure, on n'est pas dans une campagne passionnante à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a un danger justement de ne pas penser aux enjeux d'une telle campagne? Parce que le lancement de cette campagne-là s'est fait dans une démission d'un premier ministre, l'arrivée d'un premier ministre non élu, ouais. Un parti conservateur qui est dans l'opposition virulent depuis longtemps, mm-hmm. Un Bloc québécois qui semble perdre la vitesse en raison de la guerre tarifaire avec Donald Trump. Y a-t-il des dangers qu'on a au Québec de pas tant s'y intéresser?
Oui. Premièrement, rappelons, puis on en parlait avant de rentrer en onde, mais... La peur est un instrument en politique et la plupart du temps, c'est pas pour des bonnes raisons. Le problème ici, c'est que la population a peur de ce que l'administration américaine peut faire, mais elle a raison. C'est pas une peur irrationnelle, alors que souvent, par exemple, sur la question de l'indépendance, le Canada fait peur au monde, là, mais sur des bases un peu inventées de toutes pièces. Là, il y a vraiment un risque économique, il y a un certain nombre de risques. Mais ce que je crains, c'est qu'on est en train de passer à côté de tout ce qui rendait insupportable le gouvernement libéral de Justin Trudeau au cours des 10 dernières années, comme si Carney était différent, alors que c'est lui l'architecte du gouvernement Trudeau. Je veux dire, ce sont les mêmes conseillers, les mêmes ministres. Et là, deux nouvelles, puis j'attire l'attention de la population là-dessus, là. Deux nouvelles importantes. Premièrement, On se souvient de Roxham, on se souvient que c'est le Parti québécois qui était allé au front pour dire « faut fermer Roxham », on s'est fait traiter de tous les noms. Mais qui était derrière l'ouverture de nos frontières puis le fait de rentrer à travers le crime
Justin
organisé?
Justin Trudeau et le
Justin
Parti
Trudeau
libéral.
Puis le Parti libéral. Mais Mark Carney, c'est l'architecte de ça. Et là, on voit qu'il y a un mouvement important qui probablement s'en vient, mais ça a triplé à la frontière. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que les gens visés par les politiques de Trump vont dire « mais où est-ce que je vais? » Puis entre le Mexique puis le Canada, moi, je prédis qu'ils vont choisir le Canada. Puis où au Canada, ils vont choisir le Québec, exactement comme dans Roxham. C'était du sabotage intentionnel des libéraux. Comment voulez-vous que ce soit différent sous Carney? Il a même embauché l'architecte de l'initiative du siècle, un dénommé Wiseman,
ouais,
qui disait que les Québécois jappent puis aboient. Là.
C'était pas grave si on se rendait à 100 millions de population au
Canada. Le même mépris envers les Québécois. Donc, il faut y penser là, avant de porter... En tout cas, il ne faut pas se plaindre. Mm-hmm. Deuxième élément, le bois d'œuvre, là, ça semble être très sérieux que Donald Trump va tout de suite mettre un tarif de 34 % sur le bois d'œuvre. Donc, ça vise le Québec. Est-ce que Mark Carney nous protège vraiment? Tu sais, le fait de faire des appels téléphoniques avec Trump, là, est-ce que vraiment Carney, Poilievre, Le Bloc, est-ce que vraiment quelqu'un a le contrôle sur Trump en ce moment? Donc, avant de tout miser... moi, je dis aux gens, rappelez-vous des 10 dernières années puis intéressez-vous à tous les sujets parce que c'est loin d'être certain que Mark Carney va protéger le Québec sur le plan des tarifs. Il y a d'autres intérêts qui rentrent en ligne de compte et lui, il dit il y a une seule économie canadienne. C'est pas vrai.
Le chef du Bloc québécois, François Blanchet, a mentionné « J'aimerais autant mieux travailler avec Pierre Poilievre parce qu'au moins, je sais c'est qui. » Êtes-vous d'accord avec lui?
Ben, je suis d'accord qu'en effet, on ne sait pas c'est qui Mark Carney. À part que c'est la même machine, tu sais.
Ouais.
La machine libérale avec les mêmes apparatchiks, les mêmes sphères d'influence. Puis ensuite, c'est ça, je m'étais dit, puis j'essaie de maintenir la ligne, que ce n'est pas mon rôle de faire campagne à l'échelle fédérale. Mais quand, étant donné que Mark Carney est le premier ministre du Canada, quand ça vise directement ce qui nous attend dans les prochaines années au Québec, je vais continuer, je pense, à interpeller le premier ministre du Canada jusqu'à la fin des élections. Mais je ne commencerai pas non plus. Je ne peux pas commenter chaque déclaration, chaque annonce de chaque parti parce que là, je deviens un commentateur sportif puis c'est pas mon rôle du tout. Là,
mais
de faire
est-ce
ça.
Que vous invitez clairement la population à voter Bloc?
Oui, c'est la meilleure option. Je veux dire, je vais faire cette annonce-là à la fin. Tout le monde attend là, avant de choisir pour qui voter. On va attendre les débats. Mais une chose sur le Bloc... Leur loyauté envers le Québec est constante et jamais en question. La loyauté du Parti libéral ou du Parti conservateur vis-à-vis le Québec et vis-à-vis les autres intérêts, l'Ontario, l'Alberta, a toujours été un problème. Je ne veux pas arriver dans l'explication, tout le monde aura compris. Mais dans les circonstances où ça brasse, j'aime mieux avoir des gens loyaux envers le Québec.
Vous allez sûrement, d'ailleurs, ça donne bien, croiser Julie Vignola du Bloc québécois, qui est notre prochaine invitée après la pause. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bon match du Canadien.
Ce soir, Red Wings.
On suit votre gageure et comme toujours, merci pour votre temps.
À une prochaine.
À bientôt.
Merci. Jusqu'à 10h, c'est